C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London time. The station with kicks on 266.
À la fin de l'année 1979, le monde des radios offshore se réduit à deux stations. The Voice of Peace au Moyen-Orient et Radio Caroline en mer du Nord. La région, jadis hôte de tant de navires radio, a vu deux émetteurs s'éteindre en quelques mois. La tentative de relance de Radio Miamigo aura tourné court. Le Magdalena a dérivé dans les eaux territoriales hollandaises. Il a été immédiatement saisi et détruit. Quant à Radio Delmar, son équipe s'est délitée petit à petit. Et la radio a cessé d'émettre, faute de combattants, si l'on peut dire. À l'automne 1979, la survie du navire de Radio Caroline est de plus en plus compliquée. Les ravitaillements sont devenus périlleux car les autorités britanniques surveillent le bateau émetteur. Les émissions de la radio historique sont dénaturées par la diffusion massive de programmes religieux sponsorisés qui sont devenus la principale ressource financière. On a l'impression qu'un piège est en train de se refermer sur Caroline, car si la station a recours à ce moyen de subsistance, c'est parce que trouver de la publicité n'est pas facile, car les lois anti-radio offshore s'appliquent aussi aux annonceurs. Mais en même temps, on voit mal comment des publicitaires pourraient être tentés d'acheter du temps d'antenne sur une radio dont les programmes sont si chaotiques. Pourtant, la fin de Caroline va venir d'ailleurs. Le 19 mars, le Miamigo est pris dans une tempête. Il rompt son ancre, dérive et s'échoue sur un banc de sable. Rien de très nouveau, mais cette fois, l'avarie a causé de gros dégâts sur une coque déjà en mauvais état. L'équipe est contrainte d'abandonner le bateau et dans la nuit, le Miamigo coule. Mais est-ce vraiment la fin ? Si la mer du Nord est devenue vierge de tout bateau émetteur, le Proche-Orient peut toujours écouter The Voice of Peace. Au mois d'avril 1980, la station pérennise une diffusion en FM stéréo et songe à relancer ses émissions en ondes courtes. Son succès ne se dément pas, non seulement en Israël, mais aussi en Égypte ou en Jordanie. Même si dans ces deux pays la réception est moins bonne, The Voice of Peace séduit aussi le public. La disparition sous les eaux du Miamigo n'a pas entamé la détermination de l'équipe de Radio Caroline, qui s'était mise à la recherche d'un nouveau bateau avant même l'avarie fatale du 19 mars. En fait, le naufrage de l'historique Miamigo et l'arrêt forcé des émissions de Radio Caroline entretiennent d'une certaine manière la légende. The Daily Mail, vendredi 23 mai 1980. Renfloué, le Caroline par Stuart Pennion. Un nouvel élément du patrimoine maritime britannique pourrait bientôt être remonté des profondeurs, le navire radiophonique Radio Caroline. Une ville côtière espère transformer l'épave du Miamigo en une attraction touristique. Le Miamigo, qui abritait la radio interdite Radio Caroline pendant 16 ans, s'est échoué et a coulé sur un banc de sable au large des côtes du Kent lors d'une violente tempête il y a 2 mois. Des plongeurs ont exploré l'épave et se préparent maintenant à la remonter à la surface en plaçant d'énormes ballons à l'intérieur du navire et en les gonflant à l'air comprimé. Le Miamigo serait ensuite réparé et remorqué jusqu'à Ramsgate dans le Kent pour y reposer définitivement. Le conseil municipal de Tennet recherche un site approprié et le projet bénéficie du soutien du député conservateur de Tennet, William Ray Davis. « Je suis sûr que ce sera une attraction touristique majeure », a-t-il déclaré. Radio Caroline fut la pionnière de la radio commerciale locale dans ce pays et connut un immense succès. Son esprit pirate était admiré de tous et je suis certain que beaucoup voudront découvrir ce navire chargé d'histoire. Monsieur Yangil, directeur général du conseil, a déclaré « Nous sommes très intéressés par tout ce qui contribue à l'activité touristique de la région. Et je suis convaincu que ce projet y contribuera. » L'homme à l'origine de cette idée de transformer le navire en musée de la radio pirate est Rob Hedden, un ancien disque jockey de radio pirate qui dirige aujourd'hui le Caroline Roadshow à terre. Une inspection par des plongeurs a révélé que le Miamigo n'a subi que peu, voire aucun dégât lorsqu'il a été submergé par les vagues et a coulé, a-t-il déclaré. Nous avons contacté Trinity House, qui a pris possession du navire et a donné son accord pour son renflouement. Une fois sec, il sera nettoyé. The Daily Mail, vendredi 6 juin 1980. Sauvetage de Caroline. Votre article du 23 mai concernant le projet de renflouer le Miamigo, le navire qui abrite Radio Caroline au large des côtes du Kent et de le remorquer jusqu'à Ramsgate pour en faire une attraction touristique flottante, était fort intéressant. Les lecteurs seront ravis d'apprendre qu'un fonds a été créé pour financer ces travaux, dont le poste de dépense le plus important est l'assurance, le navire reposant à proximité des principales voies de navigation. Environ un quart de la somme nécessaire a déjà été collectée. Si l'objectif n'est pas atteint, les fonds recueillis seront reversés à la RNL1 de Sheerness, qui a secouru l'équipage du Miamigo lorsque la station de radio a été submergée par une forte houle. Les dons peuvent être envoyés à Fonds d'appel Miamigo, BCM, Box 1902, Londres WC1. John Hudson, Birchington, Kent. Les ingénieurs de Radio Caroline ne recherchent pas seulement un bateau, mais aussi tout le matériel qui a disparu dans l'eau. Ainsi, durant l'été 1980, trois émetteurs furent achetés à des radios américaines et canadiennes. Dès le mois de décembre, la presse spécialisée se fait plus précise. Deux hommes d'affaires anglais, Anthony Kramer et Vincent Monsey, seraient à la tête de la nouvelle société Caroline Sales International. Et Ronan O'Reilly est toujours impliqué dans le projet. Mais un certain nombre d'informations contradictoires circula, révélant une sorte de rivalité entre Ronan O'Reilly et ses nouveaux associés. Durant les premiers mois de l'année 1981, la presse continue à distiller des informations sur le retour de la radio historique annoncé pour le dimanche de Pâques 19 avril. Un certain Paul Collins, qui s'avéra être Vincent Monsey, déclara que la station allait revenir avec une nouvelle identité musicale d'anciens DJ historiques comme Johnny Walker, Tom Hardy, Steve Gordon ou John Jason auraient été recrutés clandestinement. Une agence de publicité américaine, Major Market Radio, aurait déjà présenté des grilles tarifaires à des annonceurs internationaux et son directeur Roy Lindo est mentionné comme faisant aussi partie de la nouvelle équipe dirigeante de Caroline. La stratégie de vente consistant à dire que la future Radio Caroline serait la seule à pouvoir proposer une diffusion à la fois sur le Royaume-Uni et sur une grande partie de l'Europe occidentale, et que sur la Grande-Bretagne, elle sera la seule radio commerciale à couvrir tout le territoire. Tout cela paraissait grandiose et tranchait singulièrement avec la fin de la station en 1980. Mais le dimanche de Pâques arriva sans Radio Caroline. La nouvelle direction expliqua que des problèmes techniques et des retards dans la signature des contrats publicitaires étaient à l'origine de ce silence prolongé. Toutefois, on ne manqua pas d'observer qu'aucun navire radio n'était réapparu au large des côtes britanniques. De l'équipe qui avait assuré les programmes néerlandais de Radio Caroline durant les mois précédant le naufrage du Miamigo avait aussi décidé de relancer une station de radio. Constituée de personnes ayant aussi collaboré avec Radio North Sea International, Radio Miamigo pour la partie commerciale ou les opérations terrestres, l'équipe réunit des bailleurs de fonds belges et néerlandais pour le projet Radio Paradise. Un caboteur fut rapidement acquis et amené dans le port de Cuxhaven, en Allemagne, afin d'y être transformé en navire radio. Baptisé Live et immatriculé au Panama, le bateau ne tarda pas à attirer l'attention des autorités portuaires, obligeant l'équipe à le déplacer en hâte vers Dublin, où il arriva le 11 mars 1981. Il fut d'abord question d'une seule station de radio, Mighty 690, pour couvrir toute l'Europe du Nord. Mais finalement, on parla de trois programmes distincts. Radio Europa, une radio musicale easy listening en FM, Radio Paradise, orientée pop-rock en ondes moyennes pour le public belge néerlandophone, et Radio Monique pour le public hollandais. Au début du mois de juillet 81, le Liver reçoit trois émetteurs fraîchement arrivés des États-Unis. Mais la presse commence à s'intéresser à ce mystérieux bateau, sans dire que la chasse aux navires radio en préparation était un sport couramment pratiqué chez les journalistes de l'Europe du Nord. Les rédactions ne boudaient jamais un scoop de ce genre, et lorsqu'un journaliste avait flairé une radio offshore en préparation, il était rapidement rejoint par des confrères. Ainsi, l'équipe de la future radio comprit que le bateau ne tarderait pas à intéresser les autorités portuaires de Dublin. La panique s'empara des responsables du projet et le Live quitta précipitamment Dublin le 15 juillet, alors que la construction du mât d'antenne n'était pas terminée. 5 heures plus tard, le mât n'avait pas résisté à une première tempête et le Live, qui avait pénétré en mer du Nord, dut jeter l'ancre non loin de Rem Island en vue des côtes hollandaises. C'est en pleine mer que le mât fut réparé et des essais de transmission débutèrent le 24 juillet 1981. Il consiste en la rediffusion de programmes de Radio Nova International, une station pirate terrestre irlandaise.
Radio Nova.
Thursday afternoon, Nova FM 88 and Tammy Wynette.
I've never seen the inside of a barroom or listened to a jukebox all night long.
Le 26 juillet, de nouveaux essais de transmission sont effectués avec une animation en néerlandais de Tom van der Velde.
Annie, mishandeld, vernederd en bekracht. Bruidslokken daarvoor van de Buridis en de eerste van dit drietal, de Jerry's, de babysitter van het peloton.
Toujours sur la fréquence 272 mètres, la station fait à nouveau des essais le 29 juillet sans mentionner de nom.
Niet Nederlands gezongen, maar wel Nederlands geproduceerd. Bent u daar ook tevreden mee? Wim Koopmans uit de film Kort Amerikaans. Daarvoor hoorden u de Banana's met Ik zie mijzelf als superster. En Ton van der Meer, die wou dat hij van zijn af was. Nou, als dat zou kunnen. Wij vervolgen ons non-stop programma met Sandy, Ricky Ding, Ricky Dong.
L'entrée en onde officielle de la radio fut annoncée pour le 1er août, puis la date fut repoussée au 15 août. Mais le 29 juillet, une photo aérienne du Live, publiée dans le Télégraphe, suscita des questions au Parlement néerlandais, car le cliché semblait montrer l'existence d'une antenne parabolique sur le bateau. Pour répondre aux inquiétudes exprimées par certains députés, le ministre des Télécommunications annonça une intervention de la police qu'il justifia par la présence à bord du Livet de ressortissants néerlandais. Malgré le fait que le bateau, qui a été renommé Magda Maria durant son périple depuis l'Irlande, est immatriculé au Panama et qu'il stationne dans les eaux internationales. Logiquement, quelle que soit la nationalité des occupants du navire, le seul gouvernement qui a autorité est celui qui a délivré l'immatriculation, en l'occurrence le Panama. L'équipe continue à se préparer au lancement de la station en enregistrant des programmes dans un studio à terre, alors que le gouvernement néerlandais s'apprête visiblement à commettre une action illégale.
Geloof
geloof maar dat de champagne zal vloeien in Huize Champagne, want het is de zomerhit van 1981 geworden. Houwe Baras! Radio Paradijs! Goedemorgen, fijn dat u luistert. Aardige muziek de komende twee uur met Peter Theekamp. En Cowboy Dingetje. En het verhaal over Amsterdam.
Amsterdam wordt doorkruist door vele straten en pleinen. En ik denk dat ik ze in de loop der tijd allemaal bereid heb.
Nous venons d'entendre un extrait du premier morning qui aurait dû ouvrir l'antenne lors du démarrage officiel des émissions. Mais le 1er août, à 5h30 du matin, le Magda Maria est arraisonné et trois des occupants sont interpellés. La police dit avoir constaté deux irrégularités. D'une part, il n'y aurait aucun capitaine qualifié à bord et d'autre part, le nom inscrit sur la proue, Magda Maria, ne correspond pas au nom du navire mentionné sur les documents. Cela suffit au procureur d'Amsterdam pour ordonner la saisie du navire dont l'équipement radio est démonté dès son arrivée au port. C'est la seconde fois que le gouvernement néerlandais commet une opération de ce genre dans les eaux internationales. La première avait eu lieu le 17 décembre 1964 contre Rem Island, l'île artificielle qui avait servi de base à Radio et Télé Noordzee. La saisie du Magda Maria suscita une vague d'indignation et de protestation. Le 24 août, la juridiction néerlandaise fut saisie par l'avocat de la Compagnia Navira Panlivet SA, propriétaire du bateau, qui déposa plainte à l'encontre du gouvernement néerlandais pour acte de piraterie maritime. Même si le gouvernement va reconnaître son erreur et consentir à la restitution du Magda Maria, il exige que les cristaux de l'émetteur soient démontés. Sur les conseils de leur avocat, qui ne se satisfont pas de cette décision, les propriétaires contre-attaquent pour exiger la restitution du navire dans l'état exact où il avait été saisi, et donc avec les cristaux des émetteurs. L'affaire va s'éterniser de nombreuses années. Ce n'est peut-être pas un hasard. C'est finalement presque 5 ans plus tard, le 29 mai 1986, qu'un tribunal ordonnera la restitution du Magda Maria dans son état d'origine. Mais d'une part, la décision sera officiellement notifiée 5 mois plus tard, et lorsque la justice parle d'état d'origine, il y a de quoi sourire. En effet, le bateau est resté au port pendant 5 ans sans entretien ni surveillance de la part de l'institution qui le détenait et qui était donc garante de son maintien dans l'état où il avait été saisi. En mauvais état, pillé et vandalisé, le Magda Maria ne pouvait plus servir. Il sera amené dans un chantier belge pour y être démonté. Radio Paradise n'aura fait que quelques essais de transmission. Le 6 octobre 1981, le président égyptien Anwar al-Sadat est assassiné au Caire. Sur l'antenne de la Voix de la Paix, Abinathan réagit à la fois à la mort du co-signataire des accords de Camp David, mais aussi à la disparition de Moshe Dayan, figure incontournable de la vie politique israélienne. Ce document montre, s'il en était encore besoin, que cette radio restera unique dans l'histoire des stations maritimes. Certes, The Voice of Peace est une radio principalement musicale généraliste et populaire. Mais la personnalité et la ténacité de son fondateur en ont fait une radio à part. Même si Abby Nathan a dû céder au modèle de la radio commerciale pour pouvoir faire vivre son projet, il n'a jamais perdu de vue ses objectifs. Et ce jour-là, il n'hésite encore une fois pas à interrompre les programmes pour délivrer un message de condoléances, mais aussi pour appeler à la raison.
You're listening to the voice of peace. I would like this evening to have a few words with all our listeners, wherever you are, from Cyprus, across the borders of Israel, and particularly to the people in Egypt, and to share with them the sorrow that they all feel at their loss of their great leader. This was a very sad month in the history of the Middle East when two giants, humble as they were in their quest for peace, fell. And I'm speaking in Egypt of President Sadat and in Israel of Moshe Dayan. Moshe Dayan will be remembered not only in this part of the world, but in all corners who know anything, people across the world who ever mentioned the Middle East will know that there was one Dayan in this region.
L'équipe qui prépare le retour de Radio Caroline et qui vient d'acquérir un navire observa attentivement les péripéties juridiques autour de la saisie du Magda Maria de Radio Paradise durant l'été 1981. Car il était évident que le gouvernement britannique scrutait aussi l'attitude de la justice néerlandaise. Un ancien chalutier islandais, le Ross Revenge, fut racheté et envoyé dans le port de Solar sur la côte nord de l'Espagne pour y être transformé en navire radio. Vincent Monsey conclut un accord avec la société américaine Alam Production pour diffuser des programmes 24 heures sur 24 sous le nom Radio Life en parallèle des émissions de Radio Caroline. Alam Production proposa un émetteur qui rejoignit ceux déjà acquis quelques mois plus tôt. Tout le matériel fut envoyé aux Pays-Bas en août, mais fut immédiatement saisi par les douanes néerlandaises et ne sera restitué que 4 mois plus tard, en décembre. Au Proche-Orient, le gouvernement israélien étudie un projet de loi visant à interdire les émissions de radio et télé depuis la mer. Mais ce projet contient une clause qui autoriserait le gouvernement à octroyer des autorisations pour des émetteurs terrestres. Abby Nathan se saisit de l'opportunité pour faire une demande officielle d'autorisation pour The Voice of Peace. Mais le gouvernement israélien n'envoya aucun signe encourageant. Durant le mois de décembre, Nathan intervenait régulièrement à l'antenne, annonçant que la radio fermerait à la fin du mois si elle n'obtenait pas une autorisation d'émettre depuis la Terre. Nathan soulignant que maintenir l'équipage, les journalistes et animateurs sur le Peace Ship n'était plus tenable. Le bateau avait plus de 40 ans et avait subi des dommages lors de différentes tempêtes. Abby Nathan appuya son propos en annonçant que ses initiatives pour la paix cesseraient également si The Voice of Peace cessait d'émettre. L'intense campagne de sensibilisation ne fit pas plier le gouvernement israélien. Et le 31 décembre 1981, la voix de la paix se tut, comme l'avait annoncé son fondateur.
Huna sawt as-salam ala al-mawj al-mutawassita 1540.
From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kHz.
And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
השעה 1:30, כל הבנקים סגורים. כספומט פתוח ללקוחות בנק לאומי ובנק דיסקונט.
L'affaire va avoir une suite et va provoquer une belle pagaille politique, à la fois parce que The Voice of Peace était très écouté, mais aussi parce qu'Abby Nathan est une figure médiatique incontournable. Le 12 janvier 1982, le gouvernement israélien se décide enfin à étudier la requête. Et d'emblée, le ministre des Communications, Mordechai Tzipponi, déclara qu'une révision globale de la politique d'attribution des licences radio et télé s'imposait. Et que dans ces conditions, il était inutile de statuer sur la demande spécifique de M. Abinathan. Il ajouta toutefois que si la commission en charge du dossier autorisait temporairement la Voix de la Paix à émettre depuis son navire à Mariaquet, le gouvernement ne s'y opposerait pas. Les finances de la radio étaient au plus bas. Depuis l'arrêt de ses émissions, elle n'avait plus aucun revenu. Or, l'entretien du MV Peace, même à quai, coûtait très cher. Le 26 janvier, la commission gouvernementale se prononça en faveur d'une autorisation d'émission d'une durée de 3 mois. Mais la politique s'en mêla, et le 1er février, les partis d'opposition annoncèrent qu'ils s'uniraient pour faire barrage au texte lors de son passage à la Knesset. Même le ministre des Communications, Tzipponi, ne cacha pas qu'il désapprouvait le texte qui donnait, selon lui, à Abinathan, la liberté de faire éventuellement d'énormes bénéfices publicitaires si la Voix de la Paix était relancée dans ces conditions. Il faut dire qu'une telle comédie politique ne faisait qu'entretenir la notoriété de la radio. Contre toute attente, le projet de loi fut voté le 9 février. Mais à peine une semaine plus tard, le parti ultra-religieux Agudat Israël déposa une objection à cette autorisation. Son président, Avraham Shapira, dénonçant le fait que la Voix de la Paix allait émettre pendant le Shabbat et que par ailleurs, ses programmes ne contenaient rien d'israélien ni de juif et qu'elle n'émettait même pas en hébreu. Shapira prévint que si le gouvernement de Menachem Begin appliquait ce projet de loi, son parti s'allierait avec l'opposition travailliste sur d'autres sujets pour le faire tomber. On peut imaginer que la noble tournure d'esprit d'Abinathan fut affligée par ces bassesses politiques qui dépassaient largement la seule question de la radio. Ainsi, le 16 février, il annonça renoncer à sa demande de licence. 4 jours plus tard, le MV Peace s'éloignait des côtes israéliennes et Nathan annonça qu'il pourrait aller s'ancrer aux abords de l'Irlande pour contribuer au dialogue entre catholiques et protestants. Le 20 février, un rassemblement de soutien à la Voix de la Paix réunit plus de 3000 personnes à Tel Aviv. Mais Abinathan avait plus de soutien qu'il ne l'imaginait au Parlement israélien. Et la Knesset annonça qu'elle reprendrait les débats sur l'attribution d'une fréquence terrestre pour The Voice of Peace. Finalement, Nathan décida donc de ramener le bateau vers les côtes israéliennes qui jeta l'ancre au large de Jaffa. La Voix de la Paix reprit ses programmes le 9 mars 1982. Le 14 juin, la Knesset rejeta finalement la demande d'Abinathan. The Voice of Peace allait donc rester en mer. C'était les DJ de la haute mer, 32e épisode.